ultime émission nouvelle de l'année et de quoi vous surprendre, des voix, des sons du passé, oubliés, méconnus, occultés, que par la grâce des rééditions de l'année 2022, nous allons découvrir et qui vous surprendront par leur éternelle jeunesse et fraîcheur, comme eux par exemple. Franchement, on m'aurait dit que ce que vous venez d'entendre a été enregistré en Afrique, à Lagos ou au Nigeria à 50 ans, je l'aurais cru sans hésiter. Ou encore à la Nouvelle-Orléans, pareil, je l'aurais avalé de la même façon. Eh bien, pas du tout. Ce titre, The Message, est l'œuvre d'un groupe du sud de Londres qui s'appelait Simandé, qui avait été formé par des musiciens issus de l'émigration du Guyana, hein, l'ancienne Guyane britannique. Alors, en entendant ce riff funky et léger, hein, comme une plume qui se répète à partir du début, ce rythme, ces sonorités, il y en a qui ont dû se dire « ça me rappelle quelque chose, j'ai déjà entendu ça quelque part ». Eh bien, forcément, oui, puisque une phrase de ce titre, « Message » signé Simandé, a été samplée, enfin échantillonnée, dans un titre qui a fait le tour du monde il y a une trentaine d'années, j'ai nommé « Bouge de là » de MC Solar. Et derrière ce choix, eh bien, il y avait de jeunes producteurs artistiques français, Jimmy Jay et Philippe Zdar, hein, qui est déjà associé à son camarade Boom Bass, avec lequel il formerait, pas mal d'années plus tard, le duo Cassius. Et c'est un autre musicien français d'ailleurs connu dans le monde entier aussi, Laurent Garnier, qui a attiré mon attention sur ce groupe. En effet, on était l'un et l'autre membre d'un jury à Bordeaux pour le festival Musique et Musical Écran, hein, consacré à des documentaires musicaux. Et Laurent a pu voir ce documentaire qui était hors compétition, consacré à la brève histoire de ce groupe surprenant, Simandé. Il m'en a dit le plus grand bien, donc ça m'a rendu très curieux. Alors apparemment, comme je vous disais, il y a quelques connaisseurs très avertis qui avaient déjà repéré ça il y a longtemps en France. Et le documentaire qui s'appelle « Getting It Back, The Story of Simandé » nous raconte l'histoire d'un groupe qui, ça arrive parfois, a créé une excellente musique, mais malheureusement, c'était au mauvais endroit et au mauvais moment. Une histoire qui a heureusement connu un heureux épilogue, je vous la raconte en deux mots. Elle commence au début des années 60, dans le quartier antillais du sud de Londres, à Brixton, où se lient d'amitié deux garçons, Patrick Patterson et Steve Cipio, dont les parents sont originaires, je vous l'ai dit, de l'ancienne Guyane britannique, hein, l'actuelle Guyana, un pays qui partage une frontière avec l'est du Venezuela. Ils étudient l'un et l'autre le droit et parallèlement à leurs études, ils jouent respectivement comme guitariste et bassiste dans un groupe de jazz qui reprend entre autres des thèmes de Miles Davis. Ils décident de former ensuite leur propre groupe, Simandé, répétant dans la cave de la maison des parents du batteur, un Jamaïcain de Brixton. Alors il y a d'autres membres de la communauté antillaise de Londres, hein, des Caraïbes au sens large, qui complètent la formation. Formation qui s'oriente vers un style de musique qui ressemble pas mal à ce qu'on a coutume d'appeler l'afrobeat, soit un style très élégant, souvent entre jazz et funk, propre à l'ouest africain, au sein duquel les percussions occupent une place de premier plan et dont le représentant le plus connu, bien sûr, est Fela. Un style de musique qui aujourd'hui est célébré à juste titre comme une des merveilles, hein, de la musique populaire de la seconde moitié du XXe siècle. On lui consacre même une exposition à la Philharmonie de Paris qui durera jusqu'à la fin du printemps 2023. Alors en Angleterre, la qualité de la musique de Simandé lui vaut des engagements scéniques, même un contrat discographique, mais hélas, ça ne draine pas un large public. Les responsables de la compagnie de disques souhaitent orienter Simandé vers un style plus commercial, un style noir américain, plus soul, mais enfin eux, ça les intéresse pas vraiment. Alors comme je vous le disais, les fondateurs de Simandé étaient des intellectuels, donc de futurs juristes, des étudiants en droit sensible au message anticolonial revendiquant un pouvoir noir, comme en témoigne un de leurs titres phares qui s'appelait Bra, comme brother, frère. Mais c'était pas du tout populaire dans leur communauté et encore moins au-delà de celle-ci. Les membres de Simandé se rappellent qu'ils jouaient en moyenne devant 300 personnes en Angleterre et puis un miracle a eu lieu. Un promoteur les a repérés et leur a proposé d'assurer aux États-Unis la première partie du grand chanteur soul de Memphis, Al Green. Alors subitement, Simandé s'est retrouvé à jouer au légendaire Apollo de New York et s'est aussi arrivé devant des stades de 40 000 personnes. Deux de leurs titres ont même atteint alors aux États-Unis des rangs tout à fait honorables dans les meilleures ventes. Mais enfin, quand Simandé retournait jouer à domicile, ça restait confidentiel et économiquement, ce n'était plus viable. Histoire classique, après un troisième album paru en 1974 qui n'a pas suscité plus d'intérêt que les précédents, eh bien Simandé s'est séparé. Patterson et Cipio ont abandonné la musique, enfin en tout cas sur un plan professionnel, et ont exercé des activités de juriste dans des territoires de l'Est des Caraïbes. Pendant ce temps, la musique de Simandé a continué à rayonner dans le monde du rap, du hip-hop. Il n'y a pas que les collaborateurs de Solar qui ont recyclé des éléments de leur musique. Il y a également eu le groupe phare new-yorkais De La Soul à la fin des années 80 et puis bien d'autres par la suite. Alors, c'est là que l'histoire est vraiment sympathique. Il y a eu un très heureux épilogue, puisque, encouragés par ce culte autour d'eux, comme on dit, eh bien, les musiciens se sont retrouvés une première fois au milieu des années 2000 et plus durablement, une dizaine d'années plus tard, ils ont même publié en 2015 un nouvel album et accompli une tournée aux États-Unis. À présent, un documentaire, comme je vous le disais, célèbre leur parcours. C'est un peu un sympathique conte de Noël. Autre histoire étonnante, je la raconterai une autre fois, c'est là parce qu'elle est longue, celle d'un certain certain Earl McGrath, un mondain new-yorkais qui a connu dans les années 70 absolument tous les gens qui comptaient dans la musique et l'art en général, de Andy Warhol aux Rolling Stones. D'ailleurs, il a été très lié aux Stones, il a été le directeur artistique de leur compagnie de disques, hein, Rolling Stones Records. Et c'est lui qui a découvert un duo exceptionnel de Philadelphie entre rock et soul du nom de Hall & Oates. Et à la mort de cet Earl McGrath, on a découvert, à partir de 2016, quantité de bandes magnétiques et plein d'enregistrements inédits dont on vient de publier une sélection qui s'appelle « The Lost Archive of Earl McGrath », les archives perdues de Earl McGrath, dont ce remarquable titre inédit signé Hall & Oates, « Dry in the Sun ». 14 days from Toronto, with a handmade highway for a friend. Dave figured we would do to see a town. He thought he saw some smoke drift round the bend. It was 10 o'clock when the Mohawks hit, and the fun had just begun. They tied a friend of mine with binder twine and left him to dry in the sun. Dave dropped first with an arrow in the head, and his horse Molly, she fell screaming. On my part, Bill, he saw the blood in his hands. He stared ahead like he was dreaming. It was 10 o'clock when the Mohawks hit, and the fun had just begun. He tied a friend of mine with binder twine and left him to dry in the sun.
Vertigo Trip sur France Inter. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. We'll be right back.
smile and it tears your face. It's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
On entend souvent dire que le milieu des années 60 était une période durant laquelle les jeunes musiciens de folk et de rock étaient pleins d'insouciance et d'optimisme. C'est totalement faux. La désillusion et le cynisme étaient largement répandus, en particulier face aux méthodes du show business, ce dont témoigne cette chanson américaine qu'on vient d'entendre qui remonte à l'année 1966, signée par une certaine Norma Tanegan, dont je n'avais, pour être honnête, jamais entendu parler. You're dead, t'es mort. T'es morte, hein, dans le sens, bah, t'existes plus dans ce monde si tu crois en quelque chose d'authentique. La chanson dit en résumé, dissimule tes sentiments, calcule tout, souris quand tu voudrais pleurer, deviens cynique à ton tour, sinon t'es mort, enfin t'es morte, quoi. Alors je vous ai raconté en début d'émission l'histoire des londoniens du groupe Simandé, et bien celle de Norma Tanegan est tout aussi étonnante dans un autre genre. Un parcours franchement singulier. Son père était un Philippin engagé dans la US Navy, il dirigeait l'orchestre du bord. Quant à sa mère, elle venait du Panama et elle élevait sa fille à Long Beach, c'est le sud balnéaire de Los Angeles. Alors au milieu des années 50, Norma se révèle une enfant au talent artistique exceptionnel, en tout cas très précoce. Pianiste de formation classique, elle donne des récitals adolescentes et elle apprend aussi la peinture. Au début des années 60, Norma est une beatnik qui se balade sac à dos en Europe. Elle débarque à New York à la grande époque, celle des débuts de Bob Dylan et de quelques autres, dans le quartier de Greenwich Village. Elle chante ses propres chansons partout où elle le peut, en s'accompagnant à la guitare, c'est la mode de l'époque. Elle se retrouve ainsi animatrice d'un camp de vacances dans le nord de l'État de New York, où un professionnel la remarque. Alors il se trouve qu'à New York, Norma habite dans un immeuble où les chiens sont interdits, mais pas les chats. Une situation qui la pousse à donner à son chat qu'elle a adopté le nom de Dog, chien. Ce qui lui inspire une chanson qu'elle appelle « Walking my cat named Dog », en promenant mon chat qui s'appelle Chien. Une chanson folk rock, au petit parfum baroque, comme certaines chansons des Kinks de la période. D'ailleurs, c'est une chanson qui suscite une adaptation française par un groupe vocal malgache, enfin francophone, les Surfs, très connu pendant la période yéyé, sous le titre, je ne l'ai pas inventé, « Mon chat qui s'appelle Médor ». Eh oui. Norma Tanegan s'est ensuite installée à Londres, où elle a écrit d'autres chansons, notamment pour celle qui fut de longues années son amoureuse, la grande chanteuse soul blanche Dusty Springfield, dont l'amour pour les femmes était dans ces années-là un secret total. Norma Tanegan a par la suite mené une vie aussi aventureuse qu'au temps de sa prime jeunesse. Après sa rupture avec Dusty Springfield, elle a vécu quantité d'autres expériences, composition de chansons avec un des pères de la bossa nova, le brésilien Antonio Carlos Jobim, enseignement de l'anglais seconde langue à des hispanophones à Los Angeles, enseignement de la musique aussi, peinture, sculpture, création de musique expérimentale au moyen d'instruments prototypes fabriqués en terre cuite. En tout cas, enfin, Norma Tanegan a mené jusqu'à sa disparition en 2019 une vie aussi libre que possible, dont le cœur a toujours été la création artistique, une vie qui pourrait vraiment faire l'objet d'un documentaire. Autre réédition bienvenue, celle d'une compilation d'un groupe américain de la fin des années 60, Pearls Before Swine, une compilation qui s'appelle Wizard of Oz, un jeu de mots évidemment sur Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Le compositeur, chanteur, enfin l'âme on pourrait dire de Pearls Before Swine, Tom Rapp, nous a quittés il y a 4 ans déjà, mais enfin il avait depuis très longtemps abandonné la musique comme activité professionnelle. Je vous résume son parcours très brièvement. Tom Rapp venait du Midwest, comme Bob Dylan. Il avait appris la guitare auprès d'un chanteur country. Et bon, enfin, pour résumer de façon un peu brutale sa vie, il avait absorbé beaucoup, beaucoup trop de substances hallucinogènes. Tom Rapp, sous le nom de Pearls Before Swine et en solo, a enregistré de nombreux albums, pas très connus, entre 67 et 73. Il a été accompagné par des musiciens d'exception, comme David Briggs, qui fut un accompagnateur d'Elvis, au piano et au clavecin. Chopin, à ne pas confondre avec son célèbre homonyme qui fut lui collaborateur de Neil Young. Le style de Tom Rapp présentait pas mal de points communs avec celui de Tim Buckley, le père de Jeff, comme en témoigne cette version inédite d'une des plus belles chansons signées Pearls Before Swine, Butterflies.
Butterflies, are very strong, they only cry when they're called upon. I wish I knew the butterfly in you. The moth will play with the dirty flame and end up burning inside, but the butterfly she is the flame when there's so much pretty, well there's so much pain. I think I know where all the butterflies must go. Oh, oh. Upon a rock, a beautiful thing, until the rocks come together on her dusty wings, I think I see what all the butterflies must be. Butterflies are very strong, they only cry called upon. I think I see the butterfly in thee. Won't you spread your wings on me?
Yesterday, any way you made it was just fine. So you turn your days into my time. Didn't you know you can make it without on your mind, isn't it?
Something on Your Mind, la voix rare et inoubliable de Karen Dalton, une prise inédite de sa chanson la plus connue, Something on Your Mind, qu'on peut découvrir dans la réédition de son album In My Own Time. C'est une réédition dite du 50e anniversaire dans laquelle figurent aussi des versions live inédites donc de ses chansons. Alors Karen Dalton, je rappelle ça brièvement, fut une étoile filante de la chanson folk américaine des années 60. Elle avait grandi dans une famille pauvre de l'Oklahoma, un état qui abritait de nombreuses réserves d'Indiens, enfin amérindiens comme on dit aujourd'hui. Son père Dalton, certes, était irlandais d'ascendance, mais sa mère était une indienne Cherokee. Alors Bob Dylan l'avait croisé dans le Lower East Side new-yorkais, vous savez, le quartier du sud-est de New York où se concentraient les petits clubs folk. Et voici comment il l'a décrite dans son livre de mémoire intitulé Chronique volume 1, publié en France en 2005. Cette jeune femme à la page, dégingandée et sensuelle, était ma chanteuse préférée. Elle chantait comme Billie Holiday et jouait de la guitare comme Jimmy Reed. Oui, Jimmy Reed, un guitariste de blues qui fut un des plus populaires de Chicago dans les années 50 avec B.B. King. Karen Dalton avait, c'est vrai, quelque chose de magique dans sa voix, un peu vieillie avant l'âge, mais elle était surtout très sauvage. Il avait fallu employer la ruse pour l'attirer dans un studio d'enregistrement, ce qui explique que son œuvre enregistrée a été extrêmement maigre. Instable, accrochée à l'héroïne, elle a connu un destin tragique, finissant sans domicile fixe dans les rues de New York au début des années 90, atteinte du sida. Très triste histoire. Autre publication d'archives notable cette année, celle d'un coffret de 3 CD intitulé Against the Odds, un contre toute attente, consacré à la carrière du groupe new-yorkais Blondie. Blondie qui a joué un rôle central dans la période punk et de la première New Wave avec les Ramones évidemment, et puis aussi les Dead Boys de Steve Bators, on les oublie trop souvent. Ils ont quand même été le seul véritable groupe punk dans son style et son approche de la période new-yorkaise. Bref, Blondie, un groupe centré autour de sa chanteuse charismatique Deborah Harry, une très grande voix, et de son compagnon, son mari, le guitariste Chris Stein, un groupe toujours actif à l'heure où je vous parle, qui a réuni dans ce coffret quantité d'enregistrements jamais entendus, réalisés entre 1974 et 82, dont cette version surprenante, remarquable même, de Moonlight Drive des Doors. Et c'est ce soir dans Very Good Trip sur France Inter.
stand me up at the gates of hell, but I won't back down. I'm gonna stand my ground, won't be turned around. And I keep this world from dragging me down. I'm gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right, and I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down.
Une interprétation par le regretté Tom Petty, accompagné de ses fidèles Heartbreakers, d'une de ses chansons les plus appréciées, I Won't Back Down, hein, je n'en démordrai pas. C'était sur la scène d'une salle de concert légendaire, le fameux Fillmore de San Francisco, dans lequel Tom Petty et son groupe avaient donné pas moins de 20 concerts au début de l'année 1997, une réédition augmentée de l'album Live at the Fillmore 1997 permet de découvrir quantité de versions live de ces classiques, des reprises aussi de la période du rock dit garage du milieu des années 60, tellement formatrice pour Tom Petty. On peut entendre par exemple sa version de Louie Louie, puis il y a aussi une reprise, enfin parmi plein d'autres choses, du Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, enfin pas mal de classiques comme ça. C'est dommage qu'en France, on n'ait pas développé pour Tom Petty le même culte que pour Bruce Springsteen, son frère spirituel à bien des égards. Il l'aurait amplement mérité. D'ailleurs, les deux hommes se sont toujours estimés et respectés. Et la disparition brutale de Tom Petty, il y a plus de 5 ans déjà, en octobre 2017, à l'âge de 67 ans, est vraiment irréparable. Autre réédition augmentée très bienvenue cette année, celle d'un album signé par les Beach Boys qui permet de découvrir quantité de titres inédits, versions différentes issues des années 1971 et 1972, une période durant laquelle Brian Wilson s'était quelque peu effacé, laissant la direction des opérations aux autres membres du groupe, notamment son jeune frère Carl. on peut découvrir dans cet album qui s'appelle Sail on Sailor, d'après une de leurs chansons les plus connues de cette période, un magnifique inédit. C'est une chanson signée et interprétée par l'autre frère, Dennis Wilson, Carry Me Home, qui met en scène un soldat envoyé au front au Vietnam et qui rêve de rentrer à la maison. Les Beach Boys, dans un titre jamais entendu avant 2022, c'est ce soir dans Very Good Trip sur France Inter.
Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
That's it. Before we got there, last morning time. Before we got there, that's morning time. Before we got there, that's morning time. Before we got there, I just wanna be wherever you are. Hard as that can be, it's never too hard. This hard love to see by its own light. Love inside of me, it's working at night. Seconds before I see in the dark, yeah.
Before we got there. That's morning time. Before we got there, that's human on the timer. We're leaving at 5 in the morning. We could get better mileage. That's you in the pool, swimmers. What a winner you'd be.
That's us, Wild Combination, une chanson extraite d'une réédition qui nous permet de découvrir cette année ou de redécouvrir le talent d'un musicien disparu du nom de Arthur Russell, un Américain originaire du Midwest. Il est passé par San Francisco avant de se révéler dans l'underground new-yorkais des années 70. Ce titre signé Arthur Russell figure dans une réédition d'un album paru en 2000 intitulé Calling Out of Context et qui était déjà posthume à sa sortie. Alors Russell a eu une vie plutôt brève, hein, puisqu'il est mort à l'âge de 40 ans en 1992. C'est un musicien qui a effleuré tous les genres sans jamais se fixer dans aucun. Musique instrumentale dite minimaliste, disco-funk, une sorte très mystérieuse d'électro-folk qui était prophétique dans les années 80, mais aussi country et pop. Alors c'était un violoncelliste de formation, il composait et interprétait des chansons simples en apparence, mais toujours très subtiles et profondément émouvantes. Dernière histoire étonnante de ce Very Good Trip spécial ce soir, celle d'un guitariste exceptionnel du nom de Branko Mataya. Là encore, une histoire qui pourrait fournir la matière d'un documentaire. Né en 1923, dans le nord de l'actuelle Croatie, c'était alors le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Branko a grandi à Belgrade. Et là, à l'âge de 10 ans, un peu comme les musiciens pauvres du delta du Mississippi, il a assemblé lui-même sa propre guitare avec les moyens du bord. Et quand il a eu 18 ans, eh bien, Branko a vu son pays, devenu entre-temps le royaume de Yougoslavie, envahi par l'armée allemande. Il est alors enrôlé dans l'équivalent du service du travail obligatoire pour l'Allemagne, jusqu'à ce que, quelques années plus tard, l'armée américaine vienne libérer son camp de travail. Branko se retrouve alors cuisinier, barbier, vendeur de cigarettes pour les troupes américaines, qu'il divertit en jouant de la guitare. Migrant, comme on dit aujourd'hui, se retrouve après la guerre dans un camp de réfugiés du nord de l'Angleterre. C'est là qu'il rencontre sa future femme, une autre réfugiée de Yougoslavie. Et naturalisés britanniques, tous les deux tentent leur chance au Canada avant d'atterrir à Détroit aux États-Unis et enfin à Los Angeles. Et c'est là que Branko s'établit au début des années 60 comme luthier. Il fabrique notamment des guitares pour Johnny Cash. Et oui. Et parallèlement, c'est là que ça devient intéressant, déjà que ça allait pas mal, il bricole un studio d'enregistrement pour lui-même dans lequel il enregistre des airs à la guitare, reprises, créations, sans chercher à commercialiser sa production. C'est en fait son jardin secret. Il diffuse des cassettes seulement auprès de sa famille et de ses proches, mais enfin, l'un de ses enregistrements est même gravé en vinyle, à tirage limité évidemment. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, jusqu'à ce qu'un hasard tout à fait magique s'en mêle. En 2005, un certain David Jurkovic, croate d'origine mais citoyen américain, tombe par hasard sur cet album chez un disquaire et il ne revient pas de ce qu'il découvre. Branko Mataya a anticipé dans ses instrumentaux à la guitare des effets de ce qu'on appelle le tape delay, enfin le retardement, d'écho à l'infini, assez proche de procédé qu'a pu découvrir une vingtaine d'années plus tard un musicien comme Brian Eno, inventeur de la notion de musique dite ambient. Alors Mataya était mort depuis plusieurs années, il est mort en 2000, et son fils, Bata Mataya, devenu à Hollywood un des plus importants fournisseurs de voitures customisées pour des cascades de cinéma, ne voyait pas du tout l'intérêt de commercialiser la musique de son père. Il s'est laissé convaincre par David Jurkovic, et on peut découvrir aujourd'hui avec émerveillement la guitare magique de Branko Mataya dans un album qui s'appelle Over Fields and Mountains, qui réunit entre autres des airs du folklore des Balkans comme celui-ci. Thank you. la guitare cristalline du Californien d'origine yougoslave Branko Mataja pour se quitter ce soir dans cette rétrospective des rééditions de l'année 2022. Avant que l'on se quitte, j'aimerais signaler quelques publications littéraires qui ont marqué l'année 2022. Alors, il y a certains livres que j'ai feuilletés, certains qui m'ont donné envie que je prétends pas avoir eu le temps de lire totalement. J'espère que les fêtes, en tout cas, seront propices pour vous comme pour moi. Je voudrais signaler d'abord une splendide BD consacrée à la vie de Jimi Hendrix, signée J.M. Dupont et Mezzo. C'est aux éditions Glénat, c'est magnifique. Un très beau catalogue, celui de l'exposition Fela Rébellion Afrobeat, qui a été publié par les éditions de la Philharmonie de Paris. Il y a l'exposition qui se tiendra jusqu'en juin 2023. Et c'est à compléter par un livre très érudit, plein d'illustrations remarquablement choisies, un livre signé Florent Mazzoleni, paru aux éditions Hors Collection et qui s'appelle Afrique Musique, au pluriel, une histoire des rythmes africains. Et puis, comment oublier le livre de mon excellent camarade J.D. Beauvalet, Les années New Wave, c'est paru chez GM Éditions, où l'on retrouve toute sa passion obsessionnelle, une qualité pour moi, vous vous en doutez. Et je voudrais pas oublier un beau livre publié chez Albin Michel, l'œuvre du regretté Alain Dister, qui fut un grand reporter et connaisseur de rock, sous le titre « En Amérique, 50 ans de photographie ». Puis parmi mes lectures programmées, il y a aussi un intrigant ouvrage illustré signé par nul autre que Bob Dylan, dont le titre traduit bien l'esprit farceur de son auteur, « Philosophie de la chanson moderne ». Voilà, rien de moins. Enfin, j'ai une tendresse particulière pour les mémoires, aussi modestes que fins et touchants, de la chanteuse Gilles Kaplan. Ça s'appelle « Le feu aux joues ». C'est un récit qui est paru chez Robert Laffont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour l'année, mais je resterai présent durant les fêtes. Je vous propose une série de réécoutes des moments forts de Very Good Trip. Ça commencera lundi prochain par une spéciale Neil Young, une émission de 2016. Il me reste à remercier Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, d'ailleurs presque tout le temps en 2022. Il y a également Nicolas Delmas à la technique ce soir, Zora Bensmaili bien sûr, et Romain Couturier. À l'année prochaine, lundi 2 janvier, pour le retour du direct.